Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews comme chaque soir. Soir Info qui vous accompagne de 22h30 à minuit sans aucune interruption avec Pierre Lelouch ce soir. Bonsoir, cher Pierre, ancien ministre, spécialiste notamment de politique internationale. Plaisir de vous retrouver, tout comme celui de retrouver notre ami Mickaël Sadoun, expert en politique publique. Bonsoir cher Mickaël, bonsoir au président Jean-Claude Dacier. Toujours fidèle le mercredi sur ce plateau, c'est que le Paris Saint-Germain est quasiment champion de France officiellement ce soir.
Cette année encore.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ainsi va le monde du football. Amaury Bucco est parmi nous pour les questions de police et justice. Bonsoir cher Amaury, évidemment. Johan Usaï, journaliste au service politique de CNews. Justement, Johan, on va parler politique pour les premières minutes de cette émission, puisque Marion Maréchal était sur le plateau de CNews ce soir. Il faut dire que la tête de liste du parti Reconquête pour les prochaines européennes a provoqué une petite tempête politique ces dernières heures en dénonçant la gestation pour autrui à laquelle a eu recours le designer français Simon Porte-Jacquemus. Expliquez-nous tout avant que nous entendions Marion Maréchal qui était sur le plateau de Pascal Praud tout à l'heure.
Ah oui, regardez d'abord ce tweet. Il y a la photo du couple, la photo des bras des jumeaux avec leurs prénoms, Mia et Sun. Et puis il y a la question de Marion Maréchal. Où est la maman? Avalanche de commentaires et d'indignation de la part des opposants politiques à la tête de liste Reconquête pour les élections européennes, a commencé par la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, qui dénonce d'abord sur Twitter l'homophobie décomplexée de Marion Maréchal et qui poursuit ses critiques ce matin à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute.
Quand un couple, quelle que soit la composante de son couple, femme, homme, 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 femme, femme, accueille et célèbre avec joie l'arrivée d'enfants dans son foyer, en général de façon assez simple, hein, je pense que dans nos vies perso, la première des réactions, c'est de dire félicitations. La première des réactions, c'est ça. Et pas de s'empresser de tweeter pour poser une question, où est la maman? Sachant que, arrêtons de faire comme si nous ne savions pas, Marion Maréchal Le Pen est opposée au mariage pour tous. Elle y est opposée. Donc pour elle, effectivement, c'est une vocation politique de se servir d'un fait de joie.
Alors rappelons que le gouvernement et le président de la République sont opposés à la gestation pour autrui en France, mais notre pays reconnaît les enfants nés de GPA à l'étranger. Certains anciens ministres d'Emmanuel Macron sont en revanche, eux, à titre personnel, favorables à la GPA et prennent ainsi la défense du couple Jacquemus. C'est le cas d'Olivier Dussopt, ancien ministre du Travail. Deux papas qui s'aiment et qui aiment ses enfants, c'est bien aussi une famille, c'est l'essentiel. Clément Beaune, ancien ministre des Transports, jamais la dernière pour un propos dégueulasse sur une famille et des enfants. Voilà ce qu'il dit à propos de Marion Maréchal. Réponse de Marion Maréchal à Prisca Thévenot, Olivier Dussopt et Clément Beaune. Si elle est opposée à la GPA, c'est une question d'éthique et de dignité. Marion Maréchal qui reprend les mots utilisés par Emmanuel Macron en 2017 lui-même pour dire son opposition à la gestation pour autrui. Yann Brossat, sénateur du Parti communiste, lui préférerait toujours avoir deux papas qu'une mère comme Marion Maréchal. Pour le Rassemblement national, réaction de Jean-Philippe Tanguy qui en profite, lui, pour attaquer à la fois le gouvernement et Reconquête.
La GPA est interdite en France. Donc voir Madame Thévenot, porte-parole du gouvernement, se féliciter qu'on enfreigne une loi qui existe, c'est complètement surréaliste. Ouais. Après, le problème de Reconquête en général, c'est toujours le même, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de manquer de respect aux personnes, s'exprimer de manière polémique et de fausser le débat.
Voilà, merci Johan pour cette polémique et ces nombreuses réactions politiques, notamment de la majorité présidentielle. Je le disais, Marion Maréchal a répondu tout à l'heure sur CNews face à Pascal Praud pour persister et signer.
Moi, je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer. Mon utérus n'est pas un produit à louer. Les enfants ne sont pas des biens de consommation. Ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Et puis, c'est un business. C'est un énorme business de traite humaine qui représente 14 milliards d'euros en 2022. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je ne me laisserai pas faire. Je ne suis pas intimidée par cela. Je continuerai de me battre contre cela. Et je ne me laisserai pas non plus traiter d'homophobe, puisqu'il ne s'agit pas là du tout de savoir si c'est un couple d'hommes. Je condamnerai tout autant si c'était un couple hétérosexuel.
Vous, Jean-Claude Dacier, qu'en pensez-vous implicitement, bien sûr, on a compris hein, que Mario Maréchal remet en cause la légitimité de la parentalité de ces deux pères de famille.
Je ne suis pas sûr que ce soit un débat qu'on attendait à quelques semaines des élections européennes. Néanmoins, ça reste un débat. Qui est dans le flou et la confusion en France, parce que je crois que c'est un garde des Sceaux ou une garde des Sceaux qui, sous l'influence de quelques personnalités célèbres qui s'étaient
fait... Taubira en 2013.
Oui, Taubira en 2013. A expliqué qu'au moins, on pouvait prendre, sinon un arrêté, du moins une directive, une circulaire, pour légitimer la naissance de ses enfants nés aux États-Unis, en Inde ou ailleurs. Pour autant, moi, j'étais très partagé sur l'attitude de Taubira parce que, en même temps, laisser ses enfants sans identité était quelque chose de difficile. Pour autant, depuis, il me semblait qu'une majorité claire, forte, condamnait la GPA, réservée, qu'on le veuille ou non, à l'heure actuelle, à ceux qui ont quelques moyens. Enfin, vous savez combien ça coûte.
Ça coûte très cher.
De faire faire un enfant aux États-Unis par une mère porteuse.
Aux États-Unis, ça coûte environ 150 000 $.
Combien ?
150 000 $.
Vous voyez ça,
enfin, 150
moins
000
cher.
Euros aux USA. Oui. Il y a ceux qui peuvent et les autres.
Donc,
ça, c'est la réalité du moment.
Donc, on est dans. Je ne sais pas ce que vont dire les associations féministes ou ce qu'elles devraient dire depuis des semaines et des mois et des années. Mais honnêtement, je suis contre et partage le point de vue de Marion Maréchal. Ça n'a évidemment rien à voir avec le fait qu'on ait un couple d'homosexuels qui soit dans cette situation. C'est pas mon problème, et je pense que c'est pas le problème de Marion Maréchal non plus. On peut pas, il me semble qu'on peut pas accepter ça. La modernité doit avoir des limites quand même. Il me semble que là, on est bien au-delà.
Karima Abri qui vient de nous rejoindre, d'ailleurs, je vous salue, Karima, qui nous a rejoint sur ce plateau de la rédaction de CNews. Je voudrais qu'on voit juste deux réactions avant de vous donner la parole. Rima Hassan, qui réagissait, la numéro 7 sur la liste LFI aux européennes, vous le savez, qui réagissait à la question de Mario Maréchal, où est la maman, où est le cerveau, où est votre cerveau, question posée par Rima Hassan, depuis des générations pour les Le Pen. Et puis quand je vous dis que la société est extrêmement clivée, l'exhibition, dit Eric Nolo, l'exhibition sirupeuse de deux mâles blancs fier d'avoir loué l'utérus d'une femme pauvre, absente de la photo à la manière de l'emballage d'un produit jeté à la poubelle, devrait susciter l'indignation de toutes les féministes et belles âmes de gauche. Bien sûr, il n'en est rien, puisque les féministes 2.0, comme on aime les nommer, ou les belles âmes de gauche, attaquent Marion Maréchal en homophobie. Votre réaction ?
Mais je trouve que ça part un peu effectivement dans tous les sens et il faut quand même se rappeler qu'on parle d'enfants ici. Alors moi, j'essaie quand même d'y aller avec, disons, une certaine mesure là-dessus, c'est-à-dire sur les enfants comme tels, parce qu'il y a des enfants qui sont nés de la GPA, donc il faut faire quand même attention quand on parle de ces enfants-là. Ce sont des êtres humains qui vivent, qui ont leurs droits et tout ça. Alors je pense qu'il faut faire attention. Et deux choses, moi j'ai de l'empathie, évidemment, pour des gens qui ont un désir d'enfant, qui veulent être parents, pour des femmes, par exemple, qui ont des problèmes de santé, qui ont eu un accident, un cancer, qui ont un problème avec un utérus, qui ne peuvent pas porter un enfant. Donc j'ai cette empathie, j'ai cette compréhension. Par ailleurs,
la question, c'est celle de la commercialisation du ventre des femmes.
Une fois que tout ça est dit, je pense que ce qui devrait nous guider aujourd'hui, c'est vraiment l'intérêt des enfants, c'est la priorité, et ensuite la sécurité des femmes, c'est-à-dire de ne pas basculer dans une marchandisation à outrance de ces corps, marchandisation des utérus, des ventres des femmes. Et on a vu des cas, par exemple, bon, que ce soit en Thaïlande, il y avait eu des histoires d'horreur aussi. On a vu en Inde des usines à bébés, littéralement.
Il y avait c'est un business, comme l'a rappelé Marie-Marie.
Il y avait eu un scandale aussi en Thaïlande. En fait, c'était par exemple des parents qu'on appelle des parents d'intention qui avait fait appel, qui avait fait en fait affaire avec une mère porteuse en Thaïlande. La mère porteuse avait eu un enfant qui était trisomique et à l'arrivée, donc à l'accouchement, ils avaient décidé de repartir avec une petite fille qui n'avait pas cet état de santé, mais ils avaient laissé le petit garçon à la mère porteuse. Donc, vous imaginez pour l'enfant et pour pour cet enfant et pour la mère porteuse. Et tout ça pour dire donc l'intérêt de l'enfant premier, de ne pas justement basculer dans cette marchandisation des utérus, des ventres. Et cela étant dit,
qu'on n'a pas déjà basculé, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais cette pratique existe déjà, et je sais que je vais faire un peu sursauter peut-être déjà, mais je regarde ce qui se passe effectivement en Amérique du Nord. On peut se questionner, on peut avoir le débat parce que c'est un business, notamment aux États-Unis. Au Canada, ça existe depuis plusieurs années, mais en fait, ça dit en fait que c'est la gestation pour autrui, donc on ne peut pas rémunérer les femmes, on peut simplement rembourser quelques dépenses, et c'est vraiment par altruisme, pour ça que je mets entre guillemets, ouais. Qu'est-ce que ça peut être. Et j'ai vu au Québec, tout récemment, c'était juin 2023, ils ont changé les choses pour ajuster le code de la famille aujourd'hui, parce que ça existe. C'est ça le truc, c'est que ça existe de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça existe déjà et qu'il y a des femmes aussi qui se proposent?
En France, c'est interdit, par exemple. En France, c'est interdit. Et si un couple en France veut avoir un enfant par GPA, il doit passer par un pays qui encadre cette gestation pour autrui. Pierre Lellouche, est-ce que tout ce qui est possible scientifiquement doit advenir? Est-ce qu'on doit faire tout ce qu'on veut au nom des droits de l'homme et de la volonté d'avoir un enfant?
La réponse est non, naturellement. Plusieurs remarques.
Vous êtes dans le camp de Marion Maréchal sur cette question ?
J'y viens. Je trouve complètement dément qu'on traite de ce sujet, comme on traite d'ailleurs de Palestine ou je ne sais pas quoi, à propos des élections européennes. C'est que vraiment, ils n'ont rien à dire sur l'Europe. Et chacun, c'est un peu la course des petits chevaux. Quand il y a quelqu'un en difficulté, il faut faire du buzz. Donc on a sorti ce sujet qui n'a rien à voir, d'ailleurs, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, n'a pas sanctionné la non-transcription par la France. Donc pour une fois, on n'est pas trop embêté par les histoires européennes sur ces sujets-là. Moi, j'ai eu à suivre comme législateur toute cette affaire depuis le mariage pour tous, adoption et bien sûr derrière GPA.
Le mariage pour tous qui, pour Marion Maréchal, reste le péché originel qui a ouvert la porte à la situation d'aujourd'hui.
Bon, mariage pour tous, moi je vais vous dire.
Cela encore ce soir.
Dans le je ne sais même plus comment ça s'appelle, le LR de l'époque, l'UMP, j'étais seul avec Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet à nous abstenir. On avait un mur d'opposition dans notre famille politique et après avoir vu beaucoup de gens, après avoir questionné et dans une circonscription qui ne m'a pas fait de cadeau, d'ailleurs beaucoup de gens étaient très très hostiles à la position que j'ai prise, mais en écoutant les familles, en écoutant les gens, leur refuser le droit au mariage, c'était compliqué. Mais tout de suite derrière, naturellement, se posait la question de la filiation. La filiation, c'est une toute autre histoire. Et elle se pose différemment selon qu'on est une femme ou un homme. Parce que dans le cas de deux hommes, impossible. Donc il faut louer. Donc trafic. Donc paiement. Et là, il y a quelque chose qui est effectivement monstrueux. Je reprends le terme de Marion Maréchal, à pas tort. Aller louer le ventre d'une femme aux États-Unis ou en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiennes l'ont fait pour de l'argent, naturellement. C'est quelque chose qui, me dérange. C'est du trafic d'êtres humains, en réalité. C'est rien d'autre que ça. Et j'ai beaucoup de mal à accepter ça. Alors après, on dit, il y a le projet parental, il y a la famille. Mais enfin, il y a un homme et une femme, à moins de nier que ça existe. Et de dire qu'on a un projet comme un projet immobilier ou un projet de voiture.
Est-ce que c'est si naïf que ça, ce que dit par exemple l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt? Je ne sais pas si Martin Mazur peut nous ressortir le tweet d'Olivier Dussopt. En gros, ce qu'il dit, il vaut mieux des enfants nés de familles qui ne veulent pas d'eux ou des enfants désirés qui seront aimés par des familles qui, elles, ne peuvent pas en avoir.
Ni l'un ni l'autre.
Non, mais attendez.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, on met en regard.
Pierre, je reviens vers vous juste après.
On met en regard une situation qui est voulue avec une situation qui est subie. Les deux ne sont pas désirables, désolé de le dire. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que Marion Maréchal a le droit de défendre son opinion.
Bien sûr.
Avant d'avoir raison ou pas, elle a le droit de le faire.
Évidemment.
Donc la majorité qui s'est abattue sur elle, au mépris d'ailleurs de la légalité, puisque cette pratique,
c'est ça qui est
je considère comme inhumaine,
ce qui est illégale. C'est de voir les féministes aller traiter Marion Maréchal d'homophobe, alors voilà. Qu'on est sur la marchandisation du corps
des femmes. Elle est illégale en France. Oui, par ailleurs, elle a été défendue par Jean-Philippe Tanguy, je crois qu'il n'est absolument pas suspect.
Certes.
Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de traiter tous les enjeux du débat public sous l'angle de la lutte entre le bien et le mal. Il ne s'agit absolument pas de ça. La pratique de la GPA est illégale en France. Elle ne devrait pas être défendue par Prisca Thévenot.
On parle de GPA éthique parfois. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, ça veut absolument rien dire. Il n'y a aucun pays dans lequel ça se fait de manière éthique. Je vais vous dire, j'ai travaillé sur cette question et dans tous les pays où la GPA s'est appliquée, c'est développé un marché des gamètes qui fait que les gens peuvent aller sélectionner leurs enfants
et quand
selon leur gène.
Des couples d'hommes qui ont eu recours à la GPA, qui nous racontent que
ce qui est une marche,
la femme ils ont accompagné la femme qui a porté leur enfant pendant 9 mois.
C'est la marche vers le transhumanisme.
Bien sûr.
C'est anti-républicain, c'est anti-humaniste, et c'est pas parce que ça se fait avec de bons sentiments que ça change quelque chose à l'affaire. J'ai beaucoup de respect, évidemment, pour les couples qui le font, comme pour les enfants qui sont nés par ces processus-là. J'ai énormément de respect, mais on a le droit de s'y opposer au nom de principes moraux et éthiques.
Pierre, concluez, et Jean-Claude qui veut reprendre, et Amaury aussi.
J'ai pas pu conclure, mais je vais conclure en un mot.
Allez-y.
Le fond du sujet, c'est que c'est interdit en France, à juste titre, et que je suis absolument surpris que le gouvernement défende quelque chose d'illégal.
On l'a dit en début d'émission, ce qui est légal, ce qui est autorisé, c'est de recourir à une GPA dans un pays qui l'encadre et ensuite de faire reconnaître cet enfant en France. C'est la circulaire de Mme Taubira. Donc c'est illégal. La pratique elle-même est illégale en France, mais d'avoir un enfant né de GPA dans ce pays n'est pas illégal.
C'est une hypocrisie.
Peut-être une hypocrisie, je rappelle juste les faits.
Puisque si on interdit quelque chose en fonction de principes moraux ici, je ne comprends pas pourquoi on l'accepte ailleurs.
Alors après, c'est
un peu de message contradictoire. Après, évidemment, je suis dans la même position que Jean-Claude Dacier, c'est-à-dire qu'il faut bien donner une existence légale aux enfants.
Bien sûr, voilà.
Nés de cette manière-là.
Faut pas en abuser quand même.
Évidemment, humains comme les autres. Enfin, je veux dire, il y a même pas de sujet sur ça, sur le respect de ces gens-là.
Amis, on est déjà, qu'est-ce que je raconte? Parce que je n'ai pas trop d'illusions sur la fin de cette tragique histoire. Mais enfin, qu'est-ce que vous croyez qui se passe aux États-Unis ou ailleurs? Vous choisissez le bébé sur catalogue. Enfin, vous en prenez un blond, vous en voulez un brun, vous en voulez un très
intelligent. J'ai lu qu'il y a même des assurances. Il y a même des assurances pendant deux ans si votre enfant tragiquement décède, donc il y a une malformation, je ne sais quoi. Vous avez le droit de demander un avortement et de demander à la mère d'en avoir un autre. Enfin, c'est vrai que c'est.
Si on met le doigt là-dedans, enfin, c'est effroyable.
Amaury et Pierre.
Non, moi, ce que je trouve aussi très compliqué dans cette affaire, qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est que vous avez un couple qui, entre guillemets, partage leur bonheur avec leurs jumeaux, et quelqu'un...
Donc là, vous parlez du couple avec M. Jacquemus.
Ça arrive souvent, en fait. C'est souvent des personnalités qui adoptent, des personnalités homosexuelles, qui adoptent des enfants, ou qui ont des enfants par GPA, pardon, et qui mettent en avant ce bonheur, et qui disent, regardez, c'est notre bonheur, on ne peut pas le critiquer. Et c'est normal, en médiatisant cela, que ça donne lieu à des réflexions politiques et des critiques. Et donc, ce que je trouve injuste, c'est que je trouve que Marion Maréchal a raison, si vous voulez, de dire où est la maman, parce qu'elle fait son boulot politique. Mais derrière, qu'on lui tombe dessus en disant « Mais non, c'est un cas individuel, vous n'avez pas le droit de généraliser. » Mais si, en fait, si vous voulez, on ne peut pas tout le temps dire à la fois « Il y a des cas individuels et donc on ne peut pas les critiquer » et en même temps dire « On a aussi besoin, de règles supérieures » qui règle tout ça, et donc les cas individuels certes, mais bon, derrière il y a aussi un socle commun qui doit être la loi, et donc on a le droit de critiquer les choix individuels.
Et on peut ajouter que quand même la position de Madame Thévenot est incompréhensible.
Parole du gouvernement
une fois encore,
pas été très clair. Oui, Pierre Lelouch.
Pour connaître le cas de jeunes qui sont nés comme ça, je peux vous dire qu'à l'adolescence ça devient catastrophique, quoi. Voilà. Quand on sait qu'on est le produit d'une opération financière, c'est très compliqué.
Mais est-ce que c'est comme ça qu'on leur explique?
Et je porte pas de jugement. Je dis que tout ça est mal, au sens moral, que c'est un business, que c'est avec des êtres humains. Je m'élève pour la même raison contre les manipulations génétiques. Faire très attention à ces choses, parce que vous avez des gens en Californie. Vous savez, la Californie, c'est l'endroit où, il y a un siècle, on a inventé l'eugénisme. Et où on a fait des lois qui ont beaucoup inspiré Adolf Hitler sur la race supérieure. Et là, il continue, cette fois-ci avec des biotechnologies et l'intelligence artificielle. Je dis attention à tout ce qui touche à la manipulation génétique. Et l'achat d'un enfant dans le ventre d'une autre femme, c'est une manipulation, qu'on le veuille ou pas. C'est pas l'état de nature. Et je trouve que c'est grave. Voilà.
Mais si vous voulez, ce n'est pas une diabolisation des personnes qui le font. C'est simplement pour dire qu'on peut avoir de très bons sentiments et faire de très mauvaises choses avec ces très bons sentiments. C'est précisément pour ça qu'on a inventé la morale et l'éthique.
C'est pour ça qu'il ne faut pas les juger.
Mais c'est pour ça aussi qu'il faut rester bienveillant. Parce que, comme l'a rappelé Karima, il y a un bébé à l'arrivée, il y a une vie, il y a un être humain qu'il faut protéger, qui vit a priori dans l'amour de ses parents aussi.
J'ai beaucoup de respect pour ça. On a le droit de s'opposer à la marge du progrès sur certains sujets.
Il ne s'agit pas de juger les gens. Il s'agit de savoir si on est en position de législateur ou de donner l'exemple, comme des gens connus et célèbres, si ce genre de choses est souhaitable dans une société ou pas. Bon. Et si on doit le faire, je crois que la discrétion s'impose. Ce n'est pas un modèle de société. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes voudraient que ce soit un modèle.
C'est vrai que si ce tweet n'avait pas été publié, le sujet n'aurait pas existé.
Surtout que
nous sommes d'accord.
Je souligne aussi, simplement, souligne la contradiction simplement de Rima Hassan, qui passe son temps à soutenir le peuple palestinien. Je veux quand même dire que les sondages qui ont été faits sur le peuple palestinien à l'époque par le Pew Research Center montrent que ce n'est pas vraiment des progressistes. Oui. Donc elle devrait se mettre au clair avec ça aussi.
Bon, allez, tout autre sujet. Alors qu'on revoit ce qu'a dit Rima Hassan en invectivant Marion Maréchal, où est votre cerveau? Et elle a conclu, question que l'on pose depuis des générations pour les Le Pen.
La GPA ne se pose pas trop...
Autre sujet, chers amis, n'a échappé à personne, ou presque, en tout cas sur ce plateau, parce que les Français, j'ai pas l'impression qu'ils soient très intéressés pour le moment par ce scrutin. Ce scrutin, c'est les Européennes, dans un mois et demi. Baromètre d'intention de vote aux Européennes dans la population française de confession musulmane. Voici ce qu'il faut en retenir.
Un sondage Harris s'est donc intéressé aux intentions de vote de l'électorat musulman pour les prochaines élections européennes. D'abord, pour quel parti compte-t-il voter? Sans surprise, majoritairement des partis de gauche, largement en tête le parti de Manon Bry, la France Insoumise, avec 38% d'intention de vote. S'en suivra Raphaël Glucksmann pour Place Publique et le Parti Socialiste à 14%, puis les écologistes à 8%. Ensuite, il y a trois partis qui se retrouvent à égalité avec 6% d'intention de vote. Il s'agit du Parti communiste, de la liste Renaissance et des Républicains. Jordan Bardella, quant à lui, avec le Rassemblement National, est crédité de 5% d'intention de vote à égalité avec Nathalie Arthaud. Ça n'est pas étonnant. On sait que Manon Aubry assume justement d'aller chercher le vote de cet électorat. Et puis, quand on regarde les thèmes les plus importants qui sont décisifs pour choisir leur vote, en premier arrive le pouvoir d'achat, ce qui n'est pas étonnant. C'est toujours le cas dans les sondages. Ensuite, la santé, l'emploi. Et puis, en quatrième item, à 25%, la situation en Israël et à Gaza.
Et on va revoir la page principale avec les intentions de vote. Donc, un premier commentaire, Yann Uzaï du service politique, LFI. Même si on aurait peut-être pu attendre un chiffre un petit peu plus conséquent pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, mais LFI reste le parti qui capitalise le plus sur les électeurs musulmans. Pas autant qu'on aurait pu l'imaginer, comme je le disais.
Alors effectivement, c'est moins qu'à l'élection présidentielle, puisqu'à la dernière élection présidentielle, plus de 6 musulmans sur 10 avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, donc trois fois plus que la population générale. Là, si on compare à la population générale, quand même, dans les sondages, Manon Aubry est donnée, disons, à 8%. Donc on voit quand même que les musulmans sont très, 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 très largement surreprésentés dans le vote pour la France insoumise. Alors, ça n'est pas surprenant, naturellement, puisque toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, de Manon Aubry, d'Rima Hassan, j'en passe, et des meilleurs façons de parler, vous l'avez compris.
Oui, on a compris. Oui.
Leur stratégie est effectivement basée là-dessus, séduire les musulmans, alors de différentes manières, hein, en leur laissant penser que la France serait un pays islamophobe. Ça a commencé en 2019 avec leur participation inadmissible à la marche contre l'islamophobie. Ça s'est poursuivi ensuite, voilà, en faisant croire que la police tue parce que la police est raciste, la police s'en prendrait aux musulmans, etc. Donc la France serait globalement un pays raciste. Et maintenant, ça se poursuit depuis le 7 octobre avec donc la stratégie concernant la Palestine. C'est un choix qui est payant, oui et non, quand même, parce que ça séduit une partie des musulmans. Ils en ont quand même perdu en chemin, hein, depuis l'élection présidentielle. Disons que les musulmans modérés, les musulmans républicains qui veulent s'inscrire dans le cadre démocratique français, républicain...
Comme beaucoup d'autres, ouvrent les yeux sur la stratégie de LFI.
Naturellement, mais ceux qui sont, entre guillemets, les plus radicaux, ceux qui effectivement considèrent que ceux qui ont une difficulté à établir une frontière entre l'antisionisme et l'antisémitisme, eh bien manifestement sont séduits par la stratégie de Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise d'axer cette campagne quasi exclusivement sur la cause palestinienne n'a que très peu à voir avec les problématiques européennes. Mais ça fonctionne tout de même.
Mais oui, mais oui. Bah, le problème, c'est que cette campagne n'intéresse personne et que surtout les partis politiques, tous, sont incapables de mettre en perspective. C'est compliqué à expliquer l'Europe, mais venir sur les problèmes de politique énergétique, de politique migratoire...
C'est qu'ils n'en parlent pas.
Personne n'en parle. Donc de quoi on parle? Macron, il a décidé de parler de Poutine, et tous ceux qui ne sont pas avec Macron sont des poutinistes. Et puis après, l'extrême-gauche dit, nous on est pour la paix, c'est-à-dire pour la Palestine, et donc on supprime les Juifs et les Israéliens, et on est carrément à la limite de l'antisémitisme. quand on supprime les frontières de la Cisjordanie et que c'est de la rivière à la mer, ça veut dire...
éradiquer l'État d'Israël.
C'est clair. Et là, si vous voulez, tout ça est en train de prendre une tournure. Parce que moi, j'essaye de regarder ça, je regarde ce qui se passe à l'étranger, je regarde ce qui se passe sur les campus aux États-Unis.
On en a parlé cette
semaine. On est en train de vivre un basculement qui est extrêmement malsain. Vous savez, quand le monde va mal, en général, il faut toujours un bouc émissaire. Et en général, ce sont les Juifs qui sont les boucs émissaires. Quand vous avez maintenant une globalisation à ce point de l'antisémitisme, il y a quoi se faire du souci sur l'avenir de la paix dans notre monde. Je pense que tout ça prend de très très mauvaises tournures. Monsieur Mélenchon joue avec le feu en croyant que l'avenir de la France, c'est d'éclater en communautés, de faire exploser les communautés les unes les autres, et de préparer une sorte de guerre civile mentale aujourd'hui, verbale, qui demain pourrait dégénérer dans la violence.
C'est vrai que
c'est pas très responsable de sa part, mais c'est dans son style.
C'est vrai, Michael Sadoun, que c'est franchement terrifiant de voir que depuis un moment, politiquement, rester comme ça sur des questions purement ethniques pour s'assurer un électorat.
Bon, moi, permettez-moi quand même de nuancer. Le résultat
Il ne parle que de la Palestine. D'ailleurs, quand vous voyez les préoccupations des Français musulmans, c'est le pouvoir d'achat, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe.
Non, mais bien sûr, mais de toute façon, personne n'est préoccupé par les thèmes européens, tout simplement parce que les électeurs ne sont pas préoccupés par ça. Les candidats en parlent, hein. Il suffit de tendre un petit peu l'oreille. Il y a eu un débat sur la chaîne parlementaire, il y a eu un débat devant le MEDEF, il y a eu un débat devant Jean-Marc Jancovici sur les thèmes d'écologie. Donc il s'agirait aussi que les électeurs s'y intéressent pour que les médias puissent en parler.
Cette obsession à vouloir s'assurer un électorat.
Simplement. Le résultat de ce sondage montre que tous les musulmans ne sont absolument pas unanimes sur le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Non, mais désolé de dire que 38%, c'est loin d'être 100%. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Je suis convaincu qu'il y a une part non négligeable des musulmans en France qui ne se laissent absolument pas embrouiller par cette drague de LFI. Et Dieu sait qu'elle est très insistante et qu'elle est même un peu lourdingue. Après, il faut quand même bien décrypter le chiffre. C'est-à-dire que là, on ne parle que de ceux qui vont voter. Ce sont les voix exprimées. Donc, on fait fi de l'énorme masse d'abstentionnistes qu'il y a dans l'électorat des banlieues.
Ça
rejoint d'ailleurs la stratégie de communication de la France insoumise qui consiste à dire, dans les meetings comme sur les réseaux sociaux, allez voter, faites attention, mobilisez-vous. Ça rejoint toute la campagne qu'ils avaient mise sur... Vous vous souvenez, ces animateurs qui votent et vous,
Pascal Pau
vote et vous, Nathalie Saint-Cri vote et vous. Donc, leur stratégie maintenant, c'est de mobiliser... Et pas encore Johan, mais ça ne saurait tarder, je crois.
Ça va venir.
Simplement, leur stratégie maintenant consiste à mobiliser cet électorat. Après les avoir dragués, ils veulent conclure. Voilà, c'est ça qu'il faut décrypter.
Karima Brik.
Ce que je trouve quand même intéressant dans les chiffres, oui, bon, on parle de 38%, on voit quand même le vote est divisé, mais il reste quand même une surreprésentation avec la France insoumise et aussi avec le vote de gauche, parce que si on additionne les écologistes et également 14 les socialistes... On est à 60%, donc c'est quand même significatif. Et ce qui est quand même frappant, il faut le dire, parce que ce sont les thèmes qui comptent le plus pour les électeurs musulmans, la quatrième position quand même, c'est ce qui se passe, donc le conflit Israël-Hamas.
Oui, mais c'est pas aux Européennes que ça va se régler, ça. Hein?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez intéressant, et c'est pas pour rien quand on regarde justement la France insoumise, qui est la grande vedette de cette liste des Européennes. C'est Rima Hassan, encore il y a quelques temps, on ne la connaissait pas du tout.
Sauf que la tête de liste, c'est Manon Aubry, et qu'on ne l'entend pas beaucoup, elle est assez invisible, justement, ces dernières semaines.
La tête de liste, je pense que c'est Rima Hassan, finalement, parce qu'elle porte... Et aussi, il faut dire aussi, je pense qu'il y a une question, on sait que les filles veulent aussi attirer les jeunes et les jeunes sont assez mobilisés. Il y a une partie, à tout le moins, de la jeunesse qui s'est assez mobilisée en lien avec le conflit Israël-Hamas. On l'a vu effectivement dans les campus américains. C'est quelque chose d'assez porteur. Mais moi, je trouve ça quand même particulier qu'aujourd'hui, une question internationale, oui, ça peut nous intéresser, mais on voit aussi, quand on parle de ces importations, de ces conflits internationaux sur les différents sols nationaux, bien, ça fait partie aussi de cette équation. Et malheureusement, bien, effectivement, je suis d'accord avec M. Lelouch, aujourd'hui, on a basculé dans un univers où on sent qu'il y a un échauffement des esprits, il y a un échauffement de ces tensions. Ça se répercute un peu partout.
Le règne de l'insulte
haine.
De l'insulte, de la haine qui prévaut sur le débat désormais.
Parler d'importation, c'est même pas international.
Autre remarque que je voulais faire,
c'est de la haine ethnique.
Si on peut juste réafficher les petits bâtonnets, là, je sais plus comment on dit, le sondage en tout cas. Jean-Claude, un petit mot, c'est étonnant de voir aussi que le Rassemblement national rassemble presque autant de Français musulmans que la majorité présidentielle. 6% pour la majorité, 5% pour le Rassemblement national.
Il y a beaucoup de migrants qui sont arrivés dans les années 60, 70, 80 qui considèrent qu'il faudrait arrêter là. Parce qu'ils ne se trouvent pas si mal dans notre beau pays de France.
Ils ont bien raison.
Et ils n'ont sûrement pas tort. Et donc, ils disent arrêtons cette immigration hors de contrôle. Tout ça n'est pas raisonnable. Juste un mot. Je rappelle quand même que le président de la République prononce demain...
Ah ben j'allais vous poser la question.
Un grand discours.
Ça peut le relancer ?
Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans.
Après un gros match de foot, un bon discours.
Je doute que ça soit suffisant pour relancer l'intérêt des Français pour l'élection européenne et l'Europe tout court. Mais c'est simple. Les Français, et j'imagine que d'autres peuples européens, trouvent que l'Europe, d'abord, s'incarne pas très bien avec Madame von der Leyen.
Très mal. Même.
Le grand qui incarnait l'Europe, sa volonté, c'était Delors. Bon. Là, Madame von der Leyen, elle va sans doute être réélue là où elle est. Elle est comptable.
Pas sûr.
Pas sûr peut-être, oui, en effet.
Bon.
Mais
d'ailleurs, Bellamy est en mauvaise posture à cause de ça. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le PPE qui a choisi comme candidat.
Mais les Français considèrent que l'Europe leur vaut plus d'ennuis que de bénéfices. Probablement tort, il faudrait équilibrer tout cela. C'est le sentiment qu'ils ont, on va avoir du mal à lutter contre.
Oui. Bon, on va marquer une courte pause, le temps de rappeler l'essentiel de l'actualité avec Maureen Vidal. Restez bien avec nous parce que CNews vous a révélé deux affaires assez vertigineuses aujourd'hui qui concernent à chaque fois des adolescents de 16 ans. L'un qui a menacé de faire une tuerie de masse dans son lycée à Antibes. L'autre qui est suspecté d'avoir fomenté un projet terroriste pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. On vous dit tout avec notamment Amaury Bucaud dans une poignée de secondes. Donc d'abord à quasiment 23h, l'essentiel avec Maureen Vidal.
Le Hamas a publié une vidéo d'un otage israélien retenu dans la bande de Gaza. L'homme apparaît seul, pâle, très amaigri et sa main semble amputée. Il se présente comme étant Hersh Goldberg-Paulin, 23 ans, enlevé lors du festival de musique le 7 octobre. Le jeune homme accuse le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'avoir abandonné les otages. 129 personnes, dont 3 Français, sont toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Kenji Girac maintient sa version devant les enquêteurs. Il s'agit d'une erreur de manipulation de l'arme, selon le chanteur. Cette audition libre organisée à l'hôpital Olévêque de Pessac en Gironde, 2 jours après les faits, a duré plusieurs heures aujourd'hui. Selon les premières expertises balistiques, la balle qui l'a blessé au thorax a été tirée dans la caravane où il se trouvait avec sa femme et sa petite-fille. Enfin, un plan social d'ampleur chez Casino. L'enseigne prévoit de réduire fortement ses effectifs. Le projet de réorganisation présenté aujourd'hui prévoit la suppression de près de 1300 postes. Il s'agit du plus grand plan social depuis le début de l'année en France.
Merci beaucoup, chère Maureen Vidal. CNews vous a révélé aujourd'hui 2 affaires distinctes concernant 2 mineurs. Un jeune de 16 ans d'abord qui a été arrêté à Antibes dans le Sud en début de semaine. C'est l'alerte d'un pédopsychiatre qui a permis de mettre à jour ce que semblait projeter cet adolescent. Il est suspecté d'avoir confié à son médecin vouloir faire une tuerie de masse dans son lycée à Antibes. La police qui a trouvé chez lui des armes blanches, un gilet pare-balles, sur les murs de sa chambre des dessins de croix gammées. Autre affaire distincte, donc qui n'a rien à voir, un jeune de 16 ans, encore en Haute-Savoie, lui interpellé hier, suspecté d'avoir voulu commettre un attentat pendant les JO de Paris. C'est Sandra Buisson du service police-justice de CNews qui vous en dit plus sur cette question.
Un mineur de 16 ans suivi pour radicalisation a été arrêté cette semaine chez lui en Haute-Savoie à Marigné. Il a été placé en garde à vue, notamment pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'alerte est venue de propos tenus sur une chaîne Telegram. Il est suspecté d'avoir dit sur ce réseau qu'il voulait fabriquer une ceinture explosive pour mourir en martyr au nom du califat islamique. En perquisition, les enquêteurs ont notamment découvert une déclaration d'allégeance allégeance à l'organisation terroriste État islamique. Et en audition, devant les policiers, il a expliqué qu'il projetait de commettre un attentat suicide à la Défense pendant les Jeux Olympiques. Selon ses déclarations, il voulait passer à l'acte avec une ceinture explosive ou un fusil. Mais au vu de sa personnalité, l'enquête devra déterminer si ce projet terroriste était bien réel et si oui, s'il était déjà avancé ou non. Le parquet antiterroriste s'est saisi et les investigations sont confiées à la DGSI.
C'est terrible, 16 ans donc radicalisé, qui voulait passer à l'acte pendant les Jeux Olympiques. Alors évidemment que l'enquête dira le concret de cette affaire. Pour l'instant, on est dans la suspicion. On verra s'il voulait vraiment, réellement fomenter cet attentat. Une jeunesse qui est en roue libre. On va en discuter. Vous avez un peu plus de précisions, Amaury, à nous apporter?
Oui, alors notamment sur les perquisitions qui ont été menées chez lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois donc, la découverte du téléphone sur lequel on a trouvé cette fameuse boucle Telegram. Donc c'est bien le téléphone qui a été utilisé par ce jeune homme. On peut supposer que, si vous voulez, dans cette boucle Telegram, il y a eu possiblement des policiers de la DGSI qui étaient infiltrés pour voir ce qui s'y passait. C'est comme ça qu'on a pu découvrir ce projet. Et chez lui aussi, des documents manuscrits. Alors, à la fois une lettre d'allégeance à l'État islamique, mais aussi des dessins de drapeaux. Alors, l'État islamique, là, c'est intéressant, mais aussi le drapeau du Hamas et du Hezbollah. Donc là, on voit que, si vous voulez, il y a un peu tout qui se mélange à la fois l'État islamique et, j'allais dire, la patrie, entre guillemets, classique de ceux qui se radicalisent, mais aussi tout ce qui est plus contemporain, entre guillemets, avec ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Et alors, bon, effectivement, dans ses auditions, donc, il a reconnu les faits. Il a expliqué, en fait, si vous voulez, qu'il avait le projet soit de se faire sauter avec une ceinture d'explosifs, soit d'utiliser un AK-47, donc la Kalachnikov, pour pouvoir commettre son attentat. Et alors, la dernière précision, donc, sur son profil. Ce jeune homme, on va l'appeler Zakaria, il est mineur, donc on ne peut pas donner son vrai prénom. Il a 16 ans. Donc, effectivement, il était suivi pour radicalisation parce que, selon mes informations, il se serait radicalisé sur Internet. Et je vous l'ai dit, il a 16 ans, il est vraiment jeune. Il a passé son brevet l'année dernière, en 2023. Donc, a priori, d'ailleurs, c'est un brevet général. Donc, c'était un jeune homme qu'on peut supposer avoir une scolarité normale avec un profil, à part son suivi pour radicalisation, pas spécialement de délinquant.
Merci à Maurice. C'est Pierre Lelouch, peut-être pour commencer. On est dans un phénomène de société parce que, alors, il y a cette affaire. Si on parle des mineurs et d'une jeunesse qui est en train de nous échapper, on peut faire un rapport entre ces deux affaires. Et si on ne parle que de cette affaire autour des Jeux Olympiques, on sait, et d'ailleurs les services du ministère de l'Intérieur l'ont rappelé il y a quelques semaines, de plus en plus de jeunes sont radicalisés. Il y a plusieurs sujets en un, mais tout cela, je le disais tout à l'heure, est assez terrifiant et vertigineux.
Oui, radicalisé et paumé, parce que si je comprends bien ce qui vient d'être dit, il défendait à la fois l'État islamique et l'ennemi de l'État islamique, qui est le Hezbollah et l'Iran. C'est pas la même boutique, hein. Les uns et les autres sont en guerre quand même. Les chiites, les sunnites, c'est pas l'Al-Qaïda, l'État islamique et puis les chiites, c'est pas la même boutique. Donc, dans la mesure où il se revendique de tout ça, c'est que c'est pas très clair dans sa tête. Moi, ce que je vois, c'est que c'est probablement quelqu'un qui est radicalisé. Ce qui est important, c'est que
16 ans.
La cellule antiterroriste se soit saisie, enfin le
parquet national.
Ça veut dire que c'est une affaire sérieuse, sinon il ne se saisirait pas. Et donc c'est grave de voir des gosses qui sont pénétrés si tôt. Mmh. C'est pour ça qu'il faut se battre sur l'histoire de l'entrisme de l'islam dans les écoles. Hein.
C'est pour ça qu'il faut se battre sur les réseaux sociaux.
Ça fait des années que je demande ça, moi, qu'on se batte sur les réseaux sociaux. Mais on ne le fait pas.
Cette fameuse majorité numérique, là, ça va voir le jour un jour.
C'est catastrophique parce qu'un pays comme la France ne peut rien dire face à des mastodontes qui font exactement ce qu'ils veulent et qui, juridiquement, ne sont même pas responsables parce qu'il y a des causes de non-responsabilité sur ce qu'ils diffusent. Donc c'est catastrophique. Donc, il faut qu'on surveille les écoles et il faut qu'on se batte au niveau national et européen contre les GAFAM qui font n'importe quoi. Et c'est très, très grave. L'autre affaire à Nice est également très préoccupante. Oui, le problème, ce sont les tueurs solitaires qui sont actionnés par des réseaux. Et puis, vous avez les organismes projetés, les groupes projetés qui peuvent faire des attentats.
Dans le cas d'Antibes, c'est un jeune ado qui est en hôpital psychiatrique et donc, a priori, qui est quand même assez perturbé. On en sait sur le profil. Il y avait un profil psy pour le jeune de Haute-Savoie pour l'instant.
Suivi pour radicalisation.
Suivi pour radicalisation, oui.
Une scolarité.
Il avait prêté allégeance à Daesh.
Ouais. Voilà, donc là, ça a l'air plutôt d'être un profil de radicalisé que.
Enfin, 16 ans.
L'un n'empêche pas l'autre.
16 ans, Jean-Claude Dacier. On n'a jamais vu hein, sur notre sol, ma petite mémoire, d'un attentat commis par un mineur.
Non, vous avez toute une enfance venant de générations arrivées plus récemment en France, depuis 20 ans, 30 ans, qui vit mal ce qui se passe au Proche-Orient, qui vit mal notre politique, je dirais la politique occidentale, et qui, à la tête vide, tu as raison, il y en a beaucoup qui, mon Dieu, sont peu informés sur les réalités d'avoir du combat terroriste et de ses objectifs, et puis la situation au Proche-Orient. Mais le problème est que même avec une tête vide, si vous avez une Kalachnikov dans les mains, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc ça va créer beaucoup de soucis pour les Jeux Olympiques et les épreuves qui vont se dérouler dans ce pays. Mais néanmoins, on n'échappera pas à la réflexion qui n'était pas celle du garde des Sceaux il y a encore quelques mois, mais qui est qu'il faut durcir rapidement. Il faut revoir l'ordonnance des mineurs parce qu'elle n'est plus du tout adaptée à ce qui se passe. Et il faut, je pense... Alors on a évidemment...
On va peut-être se demander déjà comment se fait-il qu'il y ait autant et de plus en plus de jeunes dans ce pays qui échappent à ce point à notre récit national, qui est un tel rejet de notre civilisation. Parce que ce soit ce jeune néo-nazi que je vais mettre entre guillemets qui veut faire une tuerie dans son lycée, ou ce jeune radicalisé à l'opposé qui planifie un attentat, c'est un refus de civilisation là qui est en jeu.
Mais parce qu'ils ont ils pensent avoir la leur, et puis la lutte religieuse vient se greffer là-dessus. C'est extrêmement compliqué. Moi, il faudra évidemment faire tous les efforts qui sont souhaités en direction des familles, en direction de, tu as raison, des écoles, etc., etc. Mais en attendant, nous sommes confrontés à une minorité, évidemment, et heureusement, de jeunes gens qui ont entre 13, 14, 15, 16 ans et au-dessus, qui sont extrêmement dangereux, qui sont radicalisés ou qui sont suspects de l'être. Et donc, il faut que nous fassions très attention dans les mois et dans les années qui viennent. On a évidemment un vrai problème de civilisation, entre guillemets, qui sont en réalité incompatibles. Carrément. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en réalité, on a deux civilisations. Ou en tout cas, sur ces jeunes enfants, ils sont convaincus qu'ils sont les détenteurs d'idées qui n'ont rien à voir avec la civilisation française, avec ce que nous avons écrit, ce que nous avons fait depuis des années, avec notre laïcité. Et donc, ça va être extrêmement compliqué. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Ça va être très compliqué dans les mois et dans les années qui viennent.
Tout le monde réclame la parole. On va faire dans l'ordre d'apparition, j'ai envie de dire. Karim Abrik, Yohann Uzaï. Et Pierre aussi voulait revenir. Pardon.
Plusieurs choses, parce qu'effectivement, le contexte international crée, si vous voulez, des sortes de fenêtres d'opportunité. En 2015, rappelez-vous, il y avait des jeunes qui étaient attirés, qui voulaient se rendre en Syrie, qui voulaient aller combattre avec le groupe armé islamique. Ensuite, bon, petite accalmie. Ensuite, en ce moment, il y a un contexte au Proche-Orient. Je suis d'accord avec vous, il y a de quoi s'inquiéter.
Mais ça, je l'entends.
Moi,
je vois qu'il y en a d'autres 16 ans, Karima.
Oui,
16
mais
ans.
Mais c'est ce que je dis. Il y a des sorte de, j'appelle ça des fenêtres d'opportunité, c'est-à-dire un contexte un peu international qui parfois c'est le djihadisme, parfois c'est justement ce contexte-là, l'islamisme, qui va faire en sorte que, on va chercher des personnes, peut-être des jeunes un peu plus fragilisés ou en quête d'absolu. Et moi, je m'inquiète beaucoup de ça aussi. C'est cet attrait vers la radicalité. Et on parle de qu'est-ce qu'on offre aussi. On peut se questionner aussi, les jeunes hommes sont attirés par quoi aujourd'hui? On parle de modèle de société. Est-ce qu'il y a une attirance justement par... on parle de masculinité aujourd'hui, masculinité toxique. Enfin, je suis entourée d'hommes. Vous pouvez m'en parler aussi sur les jeunes. Ils sont attirés par quoi? Quelle sorte de modèle on leur propose aujourd'hui? À 15 ans, 16 ans, ben parfois, on est attiré par cette espèce d'absolu. On se cherche quelque chose. Alors moi, je trouve ça extrêmement troublant, extrêmement choquant. Et on voit aussi plus largement, dans un contexte de violence, excusez-moi, mais au cours des dernières semaines, il ne faut pas aller chercher très, très loin, on a vu des cas d'hyperviolence, des jeunes qui jouissent de brutaliser, de même d'abattre, si vous voulez, des gens à mort, en les battant à mort littéralement.
On va voir les images des obsèques de Philippe à Grande-Synthe dans une minute. Oui. Et en effet, c'est vertigineux. Alors, dans l'ordre, pour contenter tout le monde, si je puis dire, Yohann Uzaï, Pierre Lelouch, Amaury qui va porter... Ah oui, Mickaël aussi. Donc, cours les amis, s'il vous plaît, parce qu'on a encore beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on puisse balayer toute l'actualité.
l'actualité.
Mais il est vrai que l'âge des terroristes interroge maintenant, parce qu'il y a une évolution qui est notable. C'est vrai qu'à l'époque d'Al-Qaïda, par exemple, les terroristes avaient plutôt entre 35 et 40 ans. Ceux qui ont attaqué la France en 2015, notamment, le Bataclan, etc.
Alors, on va attendre un tout petit peu avant de qualifier ce jeune de terroriste, parce que je reprends encore une fois les précisions de Sandra Buisson, de notre service police justice. Au vu de sa personnalité, l'enquête devra déterminer si ce projet terroriste était bien réel et si oui, s'il était déjà avancé ou non. Pour l'instant, on a un gamin qui est dans une sphère délirante et qui prête allégeance à Daesh. Maintenant, la réalité de cet attentat qu'il fomentait, il faudra la déterminer.
Non, j'entends bien, mais en tout cas, il y a quand même un caractère terroriste.
Oui, d'ailleurs, c'est la DGSI.
S'il l'a dans la tête, c'est
préoccupant.
Oui, c'est déjà très préoccupant. Vous avez raison, Jean-Claude.
Donc, si vous voulez, quand même, l'âge des terroristes d'Al-Qaïda était plutôt de 35 à 40 ans, manifestement. Ceux qui ont attaqué la France en 2005 étaient encore plus jeunes, entre 25 et 30 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gamins de 16, 20 ans qui commencent à préparer des projets terroristes, alors qu'ils vont au bout ou pas. Mais en tout cas, il y a un rajeunissement qui est très clair. Et on ne me fera pas croire que c'est parce qu'ils s'engagent pour la cause palestinienne. Ils n'y comprennent absolument rien. Ils ne savent peut-être même pas placer la Palestine sur une carte. La géopolitique, c'est quelque chose qui leur est complètement étranger. Mais la réalité, c'est qu'ils sont embrigadés par les frères musulmans, par les salafistes.
Pardon, je vais insister sur les réseaux sociaux. Je vais insister sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, là, dans l'embrigadement de cette jeunesse-là, ont un rôle majeur.
Ils véhiculent cette violence, ils menacent nos démocraties.
Et c'est là-dessus,
il faut légiférer là-dessus.
C'est là-dessus, naturellement, que les terroristes en puissance mettent tous les moyens pour essayer d'attirer à eux et de faire passer à l'acte ces jeunes qui sont déjà, naturellement, sur le territoire français.
Allez, on essaie d'avancer.
Un petit commentaire. Non, ce que je trouve particulièrement inquiétant dans cette affaire, c'est que si vous voulez, c'est pas un jeune. Bon, déjà, il était déjà suivi pour radicalisation, mais c'est pas un jeune qui a fait une déclaration à la porte-pièce sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, de quelque chose de très visible. Il est passé par une boucle Telegram qui est cryptée en principe.
Oui, pas très malin aussi.
Bah, excusez-moi, mais une boucle Telegram cryptée, c'est plutôt malin, justement.
Ah bon,
bah, normalement, on ne peut pas, si vous voulez, si la police ne veut pas...
Oui, mais il y a d'autres membres, vous pouvez vous infiltrer dans une boucle
d'accord,
Telegram,
non ? Oui, d'accord, a priori, c'était pas sur un groupe créé...
Oui, c'était pas sur Facebook public, quoi. Oui,
non, mais d'accord. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est crypté, donc a priori, normalement, la police ne peut infiltrer votre téléphone et voir votre discussion. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le fait qu'il ait prêté allégeance déjà chez lui, qu'il ait fait des drapeaux...
Et on sait comment il a été décelé, ce garçon.
C'est parce que les policiers, probablement, ont constaté que sur cette boucle Telegram, il parlait de ça. Donc probablement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait un policier ou qu'il y a eu un moyen de s'infiltrer dans cette boucle pour savoir ce qui se disait. Parce que vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est inquiétant. C'est pas un jeune de 16 ans, comme il y en a beaucoup, qui font des grandes déclarations sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui, a priori, avait un projet de son côté, dans son coin, confidentiel, et qui s'était tenu à l'écart, si vous voulez, des réseaux sociaux pour le montrer.
Allez, on conclut avec Pierre Lelouch et Michael Sadoun.
Moi, je voudrais juste dire qu'un jour, il faudra que la France arrête avec le déni de réalité, qu'elle regarde sa réalité en face. Quand, au mois de juin dernier...
Gabriel Attal l'a fait cette semaine, en parlant de l'entrisme.
Oui, écoutez...
Islamiste dans nos écoles.
Oui, il y a eu un progrès. Je l'avais noté d'ailleurs à l'époque, c'est la première fois qu'un Premier ministre dit qu'il y a un problème d'entrisme islamiste dans les écoles. Mais j'attends toujours de la part de l'État de comprendre ce qui s'est passé au mois de juin dernier, où il y a eu 550 villes de France attaquées par plusieurs dizaines de milliers de jeunes. On a beaucoup insisté sur le fait qu'ils étaient français. Alors pourquoi est-ce que ce pays est arrivé à un tel degré de mépris de soi-même qu'il fabrique une jeunesse qui déteste son propre pays ? Alors peut-être parce qu'elle arrive d'ailleurs, peut-être parce qu'elle a été mal intégrée, mal éduquée, mais il y a un problème urgent. Quand en plus vous avez des islamistes radicaux qui pénètrent par les réseaux sociaux, ça devient littéralement explosif. Ajoutez à ça les plusieurs centaines qui sont revenus de Syrie, et vous avez un paysage pour les mois qui viennent qui va être compliqué.
Allez, dernier mot, parce que je voudrais vraiment qu'on se dirige vers les obsèques particulièrement émouvantes de Philippe à Grande-Synthe. Un dernier commentaire.
Non, simplement, je veux dire que plus l'Occident est contesté sur la scène internationale, et plus il faudra s'attendre à ce que des éléments intérieurs à nos pays se solidarisent vis-à-vis de puissances étrangères pour nous contester sur notre sol. Donc malheureusement, ce genre de cas, il va falloir s'y préparer. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la France est visée en particulier, puisque... La France a connu 50 attentats islamiques depuis une dizaine d'années et le deuxième pays en Europe qui en a connu le plus, c'est l'Allemagne, avec seulement 16. Donc il y a un énorme écart, en fait. Pourquoi la France est particulièrement visée? Certainement parce qu'on incarne certaines valeurs. Parce qu'elle était engagée au Sahel et qu'elle a une force de projection internationale. Mais aussi, je crois, parce qu'il y a un manque de réponse pénale en France, désolé de le dire, et parfois trop de gens qui sont condamnés pour apologie du terrorisme sont relâchés en liberté et passent à l'acte quelques temps après. La deuxième chose, c'est évidemment un thème qu'on n'a pas abordé parce qu'il ne concerne pas nécessairement celui-là, mais l'immigration, puisqu'il y a un certain nombre d'attentats qui ont été faits par des gens qui sont rentrés dans des convois de Syriens ou autres à l'époque. François Hollande lui-même l'avait reconnu devant une commission d'enquête sénatoriale. Et la troisième chose, je dirais, c'est que la France... n'a pas su transmettre à cette jeunesse ce dont elle a besoin, c'est-à-dire une autorité et un socle de valeurs commun. Voilà.
Direction Grande-Synthe, beaucoup d'émotions aujourd'hui lors des obsèques de Philippe, ce jeune homme de 22 ans tabassé à mort la semaine dernière par des mineurs. Maxime Leguet a suivi cela pour CNews.
C'est une ville encore sous le choc et meurtrie qui a rendu hommage à Philippe, 22 ans, lui qui a été victime d'un guet-apens mortel, une agression d'une violence inouïe qui l'a plongé dans le coma avant qu'il ne succombe à ses blessures. Alors après la sidération et l'effroi, l'heure était désormais au recueillement ici à Grande-Synthe, dans cette église Saint-Jacques où se sont déroulés les obsèques. Ils étaient nombreux, les habitants de Grande-Synthe, à venir pour soutenir la famille de Philippe. Ils ont témoigné à notre micro. Je vous propose de les écouter.
C'est un enfant de Grande-Synthe. C'est notre enfant, notre fils, notre frère. Et puis les circonstances, c'est tellement dramatique, injuste.
C'est un petit jeune que je ne côtoyais pas, hein, mais ça fait partie de notre ville.
C'était une très très belle cérémonie. Il y a eu une partie de la famille qui a parlé.
On a tous lâché notre larme, même si je ne connaissais pas Philippe. Voilà, c'était émouvant. Maintenant, j'aurais préféré être ailleurs que là, en fait.
À la fin de la messe funéraire, le cercueil a été transporté par le corbillard en direction du cimetière communal où Philippe peut désormais reposer en paix.
Et sachez que désormais, donc, ce sont trois mineurs qui sont mis en examen dans cette affaire. Je voudrais que vous écoutiez un témoignage important et qu'on va commenter ensemble quelques instants. C'est le témoignage de la mère d'un des très jeunes mis en cause. Elle avoue son découragement total face à l'acte commis, enfin, présumément commis par son fils. Écoutez-la.
Je ne suis pas du tout responsable parce que quand il était à la maison, en fait, ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir, et je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre que t'es rentré si tard. Il me dit, non maman, je te jure, je suis la preuve, je suis là. Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la police qui le prenne, il faut pas non plus se voiler la face que effectivement il doit être dedans. Et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas ce qu'il a dit le Premier ministre là, pour le couvre-feu. Et ben, je trouve ça normal. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps, vous voyez. Nous, on leur dit de ne pas sortir, qu'il est interdit de sortir, que de base, la nuit, c'est fait pour dormir. C'est fait pour rester à la maison, c'est pas fait pour traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit?
Il est important ce témoignage, Michael Sadoun, parce que cette dame a le sentiment d'avoir tout fait pour éduquer son enfant, mais il y a quelque chose qui vraisemblablement lui a échappé à un moment.
Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire dans ce genre de cas. Est-ce que cette violence
elle est
procède... Bien sûr qu'elle est lucide et c'est pour ça qu'on parle souvent du manque d'éducation dans la famille. En l'occurrence, cette dame, je pense, a très bien fait son travail d'éducation. Est-ce qu'il y a une part de violence en l'humanité qui est irréductible et de laquelle on n'arrivera pas nécessairement à s'échapper? Est-ce que cette violence...
Elle a très bien fait.
Écoutez...
Et c'est quoi une bonne éducation, Pierre? C'est quoi une bonne éducation? Est-ce que une bonne éducation, il reste des phénomènes annexes qui peuvent vous entraîner?
Exactement ce que je pense.
Pierre?
La première chose que j'ai lue, c'est « je ne suis pas responsable ». Alors c'est quoi?
Mais je ne suis pas capable de juger cette femme, je vous dis franchement. Non.
Elle dit j'ai sans doute fait quelque chose qui n'allait pas, mais à un moment, parce que j'ai essayé de lire ce qu'elle disait, ce n'était pas clair. Je ne juge pas, je ne juge personne. Et d'abord, je ne connais pas l'environnement, ni d'où elle vient, ni ce que c'est, ni qu'elle fait comme travail. Il y a beaucoup de choses qui sont...
A priori, dans des milieux assez défavorisés.
Non, mais tout ça, naturellement, doit être pris en compte. Voilà. Mais qu'on n'aille pas me dire que ça n'a pas de lien avec l'éducation. C'est juste pas possible. La transmission de valeurs. Ou alors que les gens sont complètement interchangeables, on les change. Mais non, bien sûr que l'éducation... Non,
ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'éducation et puis il y a l'environnement.
Bien sûr.
Et puis il y a le caractère.
Et que l'environnement peut prendre le pas parfois dans
quand
une...
Quand vous entendez, la première chose qu'elle dit, c'est je ne suis pas responsable. Il y a juste un léger problème.
Si sur ça, peut-être. En effet...
Et Johan,
comment dirais-je ?
C'est quoi une bonne éducation ?
C'est difficile de juger cette femme dans ce moment-là, parce que ce qu'elle traverse, évidemment, on ne peut imaginer la douleur et ce qu'elle ressent.
Bah moi, mais je pense surtout à la famille de la victime.
Évidemment. Bien sûr qu'on pense d'abord à la famille de Philippe, mais gamins qui sont mis en cause, ils ont ravagé leur propre famille également.
Mais effectivement, je rejoins Pierre Lelouch. Cette phrase, je ne suis pas coupable, au minimum, elle interroge quand même, parce que les parents ont quand même une responsabilité dans l'éducation.
Alors, c'est pas la peine. Est-ce que c'est ce qu'elle dit exactement?
Et dans ce qu'accomplissent leurs enfants. Mais pardon, en plus, il y a eu des alertes quand même, parce que, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble bien que les mineurs mis en cause avaient quand même un casier judiciaire à peu près long comme le bras. Donc les parents étaient quand même au courant que leurs enfants n'étaient manifestement pas dans le droit chemin. Parce que quand vos enfants sont convoqués 3, 5, 10 ou 15 fois au commissariat, vous devez quand même vous interroger sur la manière dont vous les élevez, sur la liberté que vous leur laissez ou pas, et sur les dispositions que vous devez prendre. Parce qu'on est quand même dans un pays où si vous n'arrivez plus à éduquer ou à élever seul votre enfant, vous pouvez être aidé. Vous pouvez faire appel à l'État et aux différents services de l'État pour vous aider.
Non, sinon, donc, Julien, il faut nationaliser les enfants. Ça veut dire si les parents n'ont aucune responsabilité.
Et c'est pas ce qu'on dit, vous caricaturez là, Pierre.
Non, mais je peux plus.
C'est pas ce qu'on dit, on dit juste non, est-ce qu'à un moment, peut estimer qu'on a fait le boulot avec ses enfants, mais que pour une raison ou une autre, ils nous ont échappé à un moment de leur existence. Est-ce qu'on peut envisager ça ?
Qu'on le dise une fois, je comprends. Mais quand vous avez un phénomène de société.
Oui.
De cette ampleur-là.
Moi, je parle du cas individuel de cette mère.
De cette ampleur-là, qui touche plein de villes de France, toujours le même genre de population, avec le même genre de problématiques.
En l'occurrence, ils ne sont pas issus de l'immigration.
Il y a peut-être un léger problème général.
Ils ne sont pas issus de l'immigration, ces jeunes. Ils sont dans un milieu social qui, apparemment, est quand même très, très défavorisé. Une grande paupérisation dans ce milieu-là.
Une précision, parce que j'ai dit qu'ils avaient un casier judiciaire long comme le bras. Je veux dire qu'en réalité, ils étaient connus défavorablement des services de police et qu'ils avaient eu affaire à de nombreuses fois aux services de police. Voilà.
Et puis, c'est pas. Cet argument suffit à dire que les parents en effet sont responsables et devraient surveiller leur enfant. Non,
mais de toute façon, jusqu'à 18 ans, vous êtes responsable de vos enfants et que, en effet, quoi que fasse votre enfant, à l'arrivée, vous êtes le responsable.
J'ai quand même du mal à croire. J'ai écouté cette mère. Bon, en plus de ça, sa voix, c'est difficile d'essayer de sortir.
C'est moins anonyme, vous le comprendrez.
Mais ça m'étonnerait que ce soit la première fois que ce garçon de 14 ans, ce gamin, lui échappe et sort le soir très tard. C'est sûrement pas la première fois. Il était évidemment, et elle devait le savoir, sur un terrain qui était délicat et qui l'a amené là au désastre.
Mais sinon, puis on parle de cette mère, oui, l'autre parent, hein, c'est souvent ça aussi. Je ne connais pas le détail précis de cette histoire, mais dans plusieurs cas aussi où il y a de la délinquance, on parle souvent de mère monoparentale. Ben, où est l'autre parent? Où sont les pères dans plusieurs cas aussi? Je pense qu'on peut se poser la question. Et pour le reste, ben, pour la société comme telle, c'est toujours la question de la sanction. Quand on dit, bon, tel ou tel jeune était connu des milieux policiers et tout ça, ben, comment se fait-il qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un arrêt quelque part?
Parce que les démocraties occidentales ne savent pas traiter les gens qui ne respectent pas le contrat social.
Mais il y a eu aussi une faillite dans la réponse. Il y a ça aussi. Je pense que c'est une chaîne qui est quand même complexe. Donc, à la base, oui, l'éducation, le milieu familial, et ensuite, ben, la sanction, qu'est-ce qu'on fait aussi? Est-ce qu'on laisse aller les choses? Et puis, finalement, ça dégénère. Ben, c'est aussi un peu ce qu'on voit.
Autre affaire qu'on voulait vous relater ce soir avec ce mot, hein, de l'autorité, de retour à l'autorité. C'est un peu le mot magique du moment, le mot mot choc d'autorité, exactement, bien sûr. C'est le mot magique du moment. Sursaut d'autorité. Ce sont les mots magiques.
Par définition,
les mots magiques du moment pour l'exécutif. Pour le moment, il semblerait que ce ne soit que des mots. Amaury Bucaud, direction la Seine-et-Marne, Torcy. Alors, on n'est pas sur un délit commis par un mineur, mais c'est un très, très, très jeune adulte qui aurait pu tout simplement briser plusieurs destins dans sa course folle, dans un rodéo avec sa voiture.
Est-ce qu'on a la vidéo peut-être ?
Oui. Est-ce qu'on la montre d'abord ? On montre d'abord cette séquence. Regardez, ça s'est passé à Torcy, c'est hier.
Exactement, hier.
Hier, dans la Seine-et-Marne, donc.
En début de soirée.
Wesh ! Le cœur à ma mère en live ! Bim, qu'on se poursuit, les gars ! Wesh ! Wesh ! Wesh !
Voilà, vidéo qui a été doublée. Hein. Vous l'avez compris que vous avez vu deux fois l'image. Un refus d'obtempérer, une voiture qui fait un rodéo, une voiture de police qui la poursuit. Dans son délire, le conducteur fait un petit peu n'importe quoi et cause, vous le voyez, un accident. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas un passant, qu'il n'y avait pas une femme avec une poussette, une vieille personne, ou peu importe d'ailleurs, et que ça en reste au stade de l'accident. D'ailleurs, les braves policiers qui tentent de sauver les conducteurs, où, je ne sais pas s'il y avait un passager.
Et les interpeller au passage.
Oui, des interpellés, mais aussi de leur sauver la vie, peut-être, quand même, dans un premier temps.
Oui,
c'est le métier des policiers, faut-il le rappeler ? Qu'est-ce qu'on sait sur cette affaire ?
Alors déjà, non, mais ce qui est intéressant, c'est que cette affaire, quand même, il s'en passe toutes les semaines. C'est une affaire, j'allais dire, banale, mais là, la chose particulière qu'on a, c'est qu'on a des images et qu'on voit effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'il y aurait évidemment pu avoir des piétons ou même des passagers dans la voiture qui soient grièvement blessés, voire qui décèdent. Alors ça a commencé, j'allais dire, de façon aussi tout à fait typique, c'est-à-dire un jeune qui fait des rodéos, crissement de teux, vous savez, vrombissement de moteur, des personnes qui sortent par les fenêtres. Et là, vous avez un effectif de police qui veut les contrôler, forcément, qui dit « tiens, c'est pas normal ». Et à ce moment-là, la voiture bleue qui prend la fuite, qui prend des risques, et qui percute une première fois un poteau, ce qui ne l'empêche pas de continuer sa route, et puis une deuxième fois qui va percuter donc cette barrière près de la gare de Torcy. C'est un peu aux alentours de 20h30. Alors, heureusement, personne n'a été grièvement blessé. Il y avait donc trois personnes dans la voiture, dont le conducteur, qui est un jeune homme de 19 ans, qui s'appelle Enzo, et qui avait emprunté la voiture à sa sœur. Et Enzo, eh bien, donc, il a été placé en garde à vue et il va faire l'objet d'une CRPC, c'est-à-dire une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité, puisqu'il a reconnu les faits. Vous savez, c'est une procédure simplifiée judiciaire, c'est-à-dire on reconnaît les faits et donc on est moins sévèrement puni par la justice.
Johan, un commentaire. C'est vrai que tout ce qui ne va pas dans la société, d'une certaine manière, est condensé dans cette séquence.
Oui, c'est vrai, et on se rend compte à nouveau que les forces de l'ordre sont en première ligne, comme souvent en ce moment. Elles sont très sollicitées, elles prennent toujours des risques qui sont absolument énormes. Et heureusement qu'il y a les forces de l'ordre dans ce moment en ce pays.
Vous savez qu'il y en a certains qui seraient capables de dire que c'est la faute de la police s'il y a cet accident, parce qu'ils ont été pourchassés par des policiers avides d'une nouvelle bavure.
Voilà ce que
pourraient dire certains.
C'est ce que j'allais vous dire. Quand on voit les services que rendent les forces de l'ordre aujourd'hui à notre pays et que certains se permettent de dire que la police tue, que la police est raciste, qu'il y a un racisme systémique au sein de la police, que la police finalement joue contre la population, eh bien effectivement, moi j'ai plutôt envie de dire, heureusement que la police et les forces de l'ordre en général sont là en ce moment, parce que sinon nous serions dans une situation bien plus compliquée.
Je dis ça en souriant, mais si on n'a pas les images ce soir, Pierre Lelouch, on hurle à la bavure alors qu'un fou du volant aurait pu percuter des passants. Mais voilà l'inversion des valeurs dans ce pays.
Vous avez complètement raison.
Mais il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il ne faut pas poursuivre. Je vous assure, il y a beaucoup de gens. Mais il y a des centaines de refus d'obtempérer, il y en a partout. Il y a beaucoup de gens qui vous disent mais pour éviter.
Mais d'ailleurs, ces jeunes qui font ce rodéo.
Ils ne poursuivent pas. Ce qui
ils n'ont pas peur d'être attrapés, sinon ils ne feraient pas ça.
Chacun fera ce qu'il veut dans la seconde. Ouais. Si la consigne est donnée aux policiers de ne pas poursuivre, de ne pas interférer avec les jeunes gens qui font du rallye avec une moto.
Il n'y a plus la barrière psychologique qui fait que une voiture de police, je m'arrête.
Non, mais attendez, au moment de Naël, il y a certaines personnes qui nous ont expliqué qu'un refus d'obtempérer, ça n'était rien, c'était une petite broutille. Et qu'en plus, les policiers avaient beaucoup d'autres moyens pour arrêter ces courses-poursuites. Alors je les invite à voir ce genre de vidéo et à nous dire si, un, ça ne comporte aucun risque pour les usagers, pour les passants, etc. Et si, deux, c'est facile à arrêter.
Dernier
sincèrement.
Mot.
Un dernier mot. Mettez-vous un carrefour à Paris. et regardez comment les feux sont observés. Puis vous enverrez toute la journée des refus d'obtempérer. Combien
qui n'a jamais pris un feu orangé
jeter
la première pierre.
Mais si un policier me fait signe d'arrêter, je m'arrête.
Il y a pas un vélo.
Jeter la première pierre.
Il n'y a pas un vélo qui respecte un
feu. Ça oui, ça oui.
Les vélos. Il n'y a pas une moto, un vélo sans arrêt.
C'est de nature différente.
C'est peut-être un peu différent. C'est pas la même chose.
Non, mais c'est un manque de civisme.
C'est vrai.
Ça commence comme ça. Mais si vous respectez pas les règles,
là ils mettent en danger.
Bon, Vidal. 23h30, deux sujets intéressants. Restez bien avec nous après l'essentiel de l'actualité. Le chantage au JO, est-ce que ça fonctionne? Il semblerait que la réponse est oui à la SNCF. Et puis Emmanuel Macron, qui marque des pénaltys.
Ah oui.
Dans une équipe autour de Didier Drogba, Robert Pires et compagnie. Et les images, c'est à suivre. Maureen Vidal. Oui.
Triste après-midi à Grande-Synthe où les obsèques de Philippe Koopman se sont déroulées. 500 personnes se sont réunies pour rendre un dernier hommage à Philippe et soutenir sa famille. De nombreux habitants qui connaissaient le jeune homme ont témoigné de leur tristesse face à sa disparition. Un troisième mineur a été mis en examen pour meurtre avec guet-apens cet après-midi. Kenji Girac maintient sa version devant les enquêteurs. Il s'agit d'une erreur de manipulation de l'arme selon le chanteur. Selon les premières expertises balistiques, la balle qui l'a blessé au thorax a été tirée dans la caravane où il se trouvait avec sa femme et sa petite fille. Le procureur de la République doit tenir une conférence de presse demain à 15h. Et enfin, par mesure de précaution, l'entreprise Nestlé a détruit une partie de sa production d'eau en bouteille de la marque Perrier après la découverte de bactéries d'origine fécale dans un de ses forages. L'exploitation de ces puits a été suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Eh ben c'est merveilleux tout ça. Oui. Non, parce qu'on m'a pas dit que c'était fini, j'étais resté sur ces bouteilles. Donc merci chère Maureen Vidal. Les quatre syndicats majoritaires ont signé en début de semaine un accord sur les fins de carrière des cheminots à la SNCF, bien sûr. Un accord très avantageux pour ces derniers qui prévoit une retraite anticipée payée par l'entreprise. Les préavis de grève et coups de pression à quelques mois des JO ont eu raison du gouvernement qui, pour les oppositions, s'apparente à l'achat d'une paix sociale. Maxime Lavandier vous en dit un peu plus.
C'est un accord que les quatre principaux syndicats ont signé, y compris la CGT Cheminots et Sudrail. Il prévoit pour les salariés de l'entreprise une cessation anticipée de leur activité avant le départ à la retraite, scindée en deux périodes. Une première où le salarié travaille et sera payé à 100%, puis une autre où il ne travaillera plus mais qui restera payé à 75% par l'entreprise. Les cheminots bénéficieront de ce dispositif pendant 18 mois. Pour les aiguilleurs ou conducteurs considérés comme des métiers pénibles, il pourra s'étendre à 30 mois et même jusqu'à 36 mois pour les contrôleurs. Pour Éric Meyer, secrétaire général de Sudrail, l'objectif est de contourner la réforme des retraites.
L'accord permet de compenser en partie les effets néfastes de la réforme des retraites.
Un dispositif donc très avantageux qui réduit un peu plus leur départ à la retraite prévu à 59 ans par la réforme de 2023. Ce nouveau dispositif effectif au 1er janvier pourrait donner des idées à d'autres. Même si les contrôleurs aériens ont levé leur préavis pour demain, la menace d'une grève pour le pont de l'Ascension plane toujours.
Alors bienvenue en France, Karima Bric, qui pendant le sujet, je vais trahir Karima. Elle disait, mais c'était quand la dernière fois qu'ils ont fait grève? Karima, vous êtes en France, hein, je vous le rappelle.
Je trouve que c'est intéressant parce que, bon, oui.
Oui, c'est intéressant d'entendre votre remarque, surtout.
Je regarde, par exemple, bon, en Amérique du Nord et tout ça, c'est une façon de faire. Par exemple, vous avez un contrat de travail, une convention. Il y a les transports, évidemment, transports collectifs.
Oui, il y a
des transports. Oui, je vous informe de quelque chose. Il y a des transports, il y a des bus, il y a des métros.
Ils ont l'eau courante, Pierre Lelouch.
On a l'eau courante.
Allez-y, Karima.
On ne dort pas dans des igloos. Donc, je fais des blagues. Mais tout ça pour dire que les conventions collective, des contrats de travail, ça va durer par exemple pour, on s'entend, pendant 3 ans. Donc pendant cette période-là, au moins, il y a une accalmie. Des fois, c'est 3 ans, 4 ans et il y a une accalmie, donc vous n'allez pas avoir de grève ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que la récurrence, quand même, peut interroger.
Non mais écoutez, c'est normal quelque part. La SNCF a beaucoup d'argent, c'est une entreprise qui n'est pas du tout endettée, donc elle a les moyens naturellement.
Qui est privée en plus.
De récompenser donc,
ceci
les
dit,
salariés.
Ceci dit, ils ont commencé à faire du bénéfice récemment.
Ils ont les moyens de récompenser les métiers très très pénible. Je veux bien qu'il y ait des avantages, effectivement. Il y a des avantages dans tous les métiers.
Est-ce qu'il faut crier au scandale ou pas?
Scandale, non, mais le mot est un peu trop fort. Je dirais pas que c'est un scandale.
Mais si c'est un scandale,
c'est faible, attendez.
Mais quand même, qu'on m'explique que maintenant contrôleur ou conducteur de train, c'est un métier pénible. Il y a 50 ans, je veux bien, mais aujourd'hui, il travaille quand même dans des conditions qui sont loin d'être pénibles.
Vous savez qu'il y a les contrôleurs du ciel qui ont menacé également de faire grève. Les aiguilleurs du ciel, très précisément. Vous savez combien gagne au premier stade, un premier échelon de salaire en aiguilleur du ciel?
5 000 euros.
5 500 euros par mois et ils travaillent 32 heures par semaine. Ils sont un jour sur deux.
Avec un jour sur deux.
Le ministre des Transports qui nous en a fait une magnifique aujourd'hui, lisez avec moi. Donc il s'expliquait sur ces tractations qui ont abouti avec les cheminots. Monsieur Vergrit, l'accord de la SNCF, c'est un accord d'entreprise. N'oubliez pas, exceptionnel, n'oubliez pas qu'aujourd'hui la SNCF est une entreprise privée et qu'elle ne doit donc être soumise à la concurrence. Le contribuable ne sera pas sollicité.
Quand
la SNCF est une entreprise privée, l'État... Je rappelle à monsieur le ministre des Sports humblement que l'État est actionnaire de la SNCF à 100%.
Et a repris une partie de la dette.
À 100%.
Ça n'est pas le contribuable qui a repris une partie de la dette.
Jean-Claude et Pierre Lelouch.
Non, mais moi deux mots, si vous voulez. Je n'ai plus depuis longtemps, quasiment depuis Juppé, c'était quelle année, 95. La moindre illusion sur la qualité du dialogue social à la SNCF, accessoirement on peut y ajouter les contrôleurs aériens. Mais même Thatcher, reconnaissons-le, n'avait pas touché à British Rail les quatre premières années de son mandat. Pourquoi ?
Parce qu'ils font ce qu'ils
veulent. Parce que je vais vous dire, aucun gouvernement, voyez Juppé, je le répète, en 95, aucun gouvernement ne peut résister à une grève interminable. Ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 1 mois, voire davantage. On réussit toujours, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à les payer. Face à des syndicats qui ont le monopole absolu des transports.
Ça dépend de l'état du droit. Souvenez-vous que Reagan, quand il est arrivé
Reagan,
au pouvoir,
c'était 80, a le de 81.
Ouais, enfin, il a licencié 11 000 fonctionnaires.
Il en a viré 11 000. Si on change la loi...
Il faut trouver un mi-chemin.
Je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas un néolibéral échevelé. Mais simplement, l'État est actionnaire à 100% de la SNCF. Le conseil d'administration de la SNCF est composé presque exclusivement de syndicalistes et de fonctionnaires de Bercy. Les fonctionnaires de Bercy ont la responsabilité des finances publiques. Ils devraient peut-être, après avoir absorbé les 40 milliards d'euros de la dette de la SNCF, qui pèse donc sur le contribuable, puisqu'on doit rembourser des intérêts sur cette dette, ils devraient peut-être utiliser la trésorerie qu'ils ont faite récemment pour l'utiliser légèrement.
Mais en attendant, vous verrez les usagers qui paieront la dette.
Et d'autant plus que la SNCF est en grève chaque année depuis 1945.
Le président avait passé les consignes avant son pénalty historique.
On va le voir dans un instant.
Laissez-moi tranquille, je veux que les Jeux Olympiques se déroule normalement.
Le chantage au jeu fonctionne
et
à tous les coups.
Ça a fonctionné magnifiquement. Est-ce qu'on lui donne tort ou raison, j'en sais rien. Il n'aura même pas, je pense, le président de la République, le courage de faire passer une loi après les Jeux, je rêve pas, après l'été.
Pour interdire les grèves pendant les vacances?
Voilà, interdire les grèves au moins pendant les grandes dates de départ en vacances. Même ça, je pense qu'on ne le verra pas.
Le nouveau texte, Pierre Lelouch, offrira aux contrôleurs, pour ne parler que des contrôleurs, la possibilité de stopper leur activité 18 mois avant la fin de leur carrière, tout en percevant 75% de leur salaire jusqu'à la retraite. On n'a pas voté une réforme des retraites qui est censée s'appliquer à tous.
Vous poser la question.
Ah non, ça
n'a pas pris 7 ans, la réforme des retraites.
Mais paraît-il,
depuis le premier quinquennat de l'auguste président. Ça n'a pas pris 7 ans.
Si.
Il y en a eu deux.
Il n'y a pas eu des manifs et des choses. Et ça a été engrangé de hautes luttes. Et même qu'on a eu des bonnes notes des agences de notation parce qu'on a pu montrer qu'on avait fait la réforme des retraites.
Tout à fait, monsieur. C'est
inutile du point de vue des finances publiques.
C'est effrayant.
Si vous me laissez juste terminer. J'ai été effaré d'entendre le ministre des Transports, effaré de prendre les gens, les Français, pour des burnes, des
imbéciles. Il ne connaît rien à son dossier, c'est possible.
Mais c'est une honte. De la façon de traiter le citoyen français en expliquant que c'est une entreprise privée.
Ça ne
coûtera rien aux contribuables. Alors que tout. que tout depuis 5 décennies est à la charge du contribuable.
Juste une question, Pierre.
C'est un scandale.
Comment un ministre des Transports peut dire haut et fort sur un média national que la SNCF est une entreprise privée?
Non, je sais pas d'où il vient.
Je pense que ça relève plus de l'erreur que de l'embrouille.
Non.
Il est au cœur d'une.
Je pense qu'il a dit une bêtise et que pour lui, une entreprise c'est forcément privée.
Mais c'est pas une erreur là. Je veux dire, c'est
quand il dit que le contribuable ne sera pas sollicité.
Je sais que vous me le dites,
mais il connaît pas son sujet.
Il est ministre des Transports, il dit que la SNCF est une entreprise privée. Je ne sais pas quoi vous dire.
C'est monstrueux.
Bon, il y a 21 millions de salariés du privé dans ce pays qui se disent que nous, on est bien moins lotis que les privilégiés des transports.
Il a réécrit la loi des retraites juste pour cette entreprise parce qu'elle tenait le gouvernement, parce que je pense, juste avant les Jeux Olympiques.
Mais en fait, il y a deux France socialement.
C'est ça.
Il y a deux France.
Donc la France a peur pour les Jeux Olympiques, d'une part des terroristes, d'autre part des syndicats. Comment voulez-vous qu'on...
C'est compliqué, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué.
J'ai plus peur des terroristes quand même que des syndicats.
Oui, mais une fois de plus, c'est la responsabilité de l'État, parce que les syndicats, ils ont la tâche de défendre les intérêts des salariés, et je pense qu'ils le font très bien.
Alors, pas tous en même temps, chacun va avoir le temps d'exposer son commentaire.
La stratégie de la capitulation préventive n'est pas la meilleure quand on veut être respecté.
Je suis d'accord. Il y a des personnes dans ce pays qui sont toujours épargnées.
Mais mettons-nous bien, regardons les choses avec beaucoup de simplicité. Pour sauver les Jeux Olympiques, ça dure combien de temps les Jeux avec les Jeux handicapés?
Un peu moins de trois semaines.
Enfin, il y a les Jeux. On va payer pendant des décennies l'accord qui a été signé par une nuit sans lune. Je ne sais pas quand c'était. Ça veut dire que pour sauver les Jeux, ça va nous coûter pendant des années et des années un certain nombre. On n'a pas fait les calculs encore, mais ça va coûter évidemment très cher.
Estanguet va rembourser, n'inquiétez pas.
Mon Dieu, quel pays.
Bon, un peu de football ou pas? Vous vouliez dire encore un mot là-dessus, Johan, non? Un peu de foot?
Allez.
Il y avait un gros match.
De haut niveau, comme ça.
Gros niveau, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si il ne faudrait pas qu'il songe à une deuxième carrière après la fin de son quinquennat. Le président de la République qui participait à un match de football en faveur de l'association des pièces jaunes, vous le savez, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Monseigneur Jacques Vendroux, président de ce club en tant que gardien de but. Le président de la République, lui, au milieu de terrain. Vous avez vu qu'il y avait Alain Giresse en face. Il y a du très très lourd. Pour ceux qui aiment le football, franchement, le 11 de départ autour de Emmanuel Macron, c'était costaud. Deschamps, De Sailly, Drogba, Pires, pour ne citer que, Carambeu, Eden Hazard, Laurent Blanc. Enfin bon, c'était vraiment des très grands joueurs. Je vous montre le but du chef de l'État. Penalty. Oui, un penalty à la...
Bien sûr, on le voit.
À la Mbappé, regardez ça. D'abord, hein, bien sûr.
Le gardien a eu le bon goût
de l'Olympique de Marseille.
Le gardien a eu peur de perdre
le travail. Le gardien est un garçon de bon goût qui n'a pas esquissé le moindre geste.
C'est le débat du soir. Est-ce que le gardien a laissé passer ce pénalty?
Parce que s'il arrête le tir du président de la République, on en rigole encore.
Qui était dans les buts en face? Est-ce que, si vous avez l'info, les amis, qui était dans les buts en face d'Emmanuel Macron, ça m'intéresse parce que j'ai pas eu le loisir de
prendre cette information. Je ne vois pas.
Non, mais là, c'est pas. Déjà, Jacques Vendroux, il était dans l'équipe d'Emmanuel Macron.
Ah oui,
mais c'est le gardien de l'équipe d'en face. Si vous avez ça d'ici les 5 minutes qui viennent, enfin bon, c'est pas le plus important.
Vous n'avez pas mis le petit pont d'Emmanuel Macron.
Alors si, justement. Ah, Ella Gidiouf.
Je pensais que vous aviez trop de respect.
Ella Gidiouf, énorme joueur à son époque, ancien notamment du Arsenal, je crois. Ella Gidiouf, ça aussi, on me le compte. Non, mais vous en savez rien. Donc,
pardon.
Ella Gidiouf qui fait des petits crochets. Ah, mais vous allez trop vite, j'ai pas eu le temps de. Bon, Ella Gidiouf qui a mis un petit pont au chef de l'État. Si on peut la doubler, on peut la remettre la séquence parce que c'est énorme. En fait, il joue un petit peu avec le chef de l'État en faisant des petits crochets et en le faisant un petit peu slalomer avec le ballon. Et là, Gidouf qui finit par mettre un petit pont au chef de l'État. Et Emmanuel Macron, il faut pas quand même trop lui mettre de bâton dans les roues. Derrière, c'est petit tacle à la cheville pour faire comprendre à Monsieur Diouf qu'il y a un président sur le terrain et que c'est pas lui. Vous avez vu d'ailleurs Didier Deschamps qui vole au secours tel un garde du corps d'Emmanuel Macron.
Heureusement.
Au-delà du commentaire sportif, est-ce qu'il était à sa place, Pierre Lelouch, cet après-midi, le chef de l'État?
Écoutez, la dernière fois que je l'ai vu, il était boxeur. Avant ça, il était sous-marinier. Avant ça, il était aviateur.
On a vu Valéry Giscard d'Estaing au football.
Fondamentalement, il s'amuse. Il s'amuse beaucoup. Les Français un peu moins, mais lui, il est dans la jouissance de ça.
Vous êtes mauvais esprit.
Il s'éclate.
Je pense qu'il nous a déjà fait bien pire, que c'était une cause
caritative, ça me pose absolument aucun problème. Oui. J'aurais bien pesté si j'avais été là au moment de McFly et Carlito à l'Élysée, hein, aucun problème.
Ça dégrade pas, là, la fonction, au point où on a bien, pu l'imaginer en effet lorsqu'il recevait des youtubeurs à l'Élysée.
Et puis on sent qu'il a joué au football quand même.
Légèreté,
Giscard, souvenez-vous des images de Giscard jouant au football, lui aussi, il était moins à l'aise.
C'est là qu'on a commencé à plonger. Quand on a sorti les accordéons, la France a commencé à plonger. Parce que tant qu'il y avait des gens sérieux comme De Gaulle et Pompidou, ce genre de banane, ça n'existait pas. Et Mitterrand, ça ne lui serait pas venu à l'esprit non plus. Voilà, je vous laisse réfléchir. Quand monsieur à côté de moi a dit « on a besoin d'un peu de légèreté », ben écoutez, vous changez de métier.
Alors déjà,
je ne parle pas comme ça.
Mais c'est insupportable. La gestion d'un pays en crise.
C'est un match caritatif, on s'en fiche. Je ne suis pas sûr que pendant l'heure et demie où il a joué, il aurait résolu tous les problèmes de la France. Par ailleurs, je note que Trump jouait au golf 3 heures par jour, ça l'a pas empêché d'être un très bon président. Donc moi, je pense
que c'est
un bon
président. Ok, mais ce qui m'intéresserait quand même, c'est que demain, avant ou après son discours, il puisse dire un mot sur ce qui se passe à la SNCF, et on n'en a pas dit un mot parce qu'on n'a pas eu le temps.
Il va être fatigué pour son discours.
Demain, tu vas avoir 50% des avions qui ne vont pas voler sur le territoire français, alors que l'ordre de grève a été levé. Donc on est dans une situation qui est quand même très étrange. Le principal syndicat a levé son ordre de grève. Là, je pense qu'on a encore lâché beaucoup. Quoi, on ne sait pas encore. Oui. Hein. Mais malgré tout, il y aura quand même la grève.
Oui.
Donc on est quand même, encore une fois, je le répète, dans un drôle de pays.
Il faut de la légèreté. Il faut de la légèreté.
Oui, ça n'est pas incompatible. On peut agir et faire ce genre de match caritatif pour moi. Allez-y, Pierre.
Mais je crois que vous avez absolument le temps de parler.
Allez-y, Pierre.
C'est difficile.
Allez-y.
Il continue.
Mais non, il continue pas. Allez-y.
Si, continue.
Arrêtez, on n'est pas dans la cour d'école, là.
Bon. Ce que je veux simplement dire, c'est que la fonction présidentielle mérite. L'autorité, ça se mérite. Et l'autorité, c'est la distance. De Gaulle l'a écrit. On ne peut pas gérer un pays en faisant n'importe quoi, en faisant un coup du foot, un coup de la boxe, un coup en se montrant à cheval. Enfin, c'est pas un jeu. Ça demande une distance, surtout dans un pays qui souffre et dans un pays en crise. Voilà. Alors ça a l'air sympathique, ça peut être léger, ça peut être tout ce qu'on veut. La prochaine fois, il peut jouer aux jeux vidéo pour montrer qu'il s'intéresse aux jeux. Il a fait du TikTok aussi, il a fait tout ça. Il a pris case par case, il a décliné tout. Eh ben, on est dans la com, on n'est pas dans la distance nécessaire à la gestion d'un pays qui ne va pas bien. Voilà. Moi, je distingue les politiciens des hommes d'État. J'aimerais que la France, le calibre des hommes d'État dont nous avons besoin aujourd'hui, dans la situation internationale où nous sommes, n'est pas de nature à me rassurer quand je vois.
C'est pas faux.
Okay. Bon. Niveau. Allez. Non, mais on va conclure. On va remettre le pénalty pour finir.
Non, mais Vladimir Poutine s'est aussi déjà fait filmer en train de faire du sport. Je crois que ça n'empêche pas d'être un homme d'autorité à l'ancienne, entre guillemets. Désolé de vous dire que nous sommes à une époque de communication. Ça relève, vous avez raison, de la communication. Ça n'empêche pas d'avoir.
Je dis qu'il va tirer à droite du gardien. À droite du gardien. Je la sens comme ça. Allez, but. But, 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 but du chef de l'État. Ils ont gagné, d'ailleurs. Je crois que l'équipe d'Emmanuel Macron a gagné ce match. Martin Mazur, Sophia Rousseau, Coralie Deleplace, on prépare cette émission, qu'est-ce qu'il y a ?
Je disais comme par hasard.
Ah oui, bah oui. Bah là, ils étaient tous virés, hein, je plaisante, bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis, légèreté ou pas.
Légèreté.
Vous avez tranché. Non, mais c'est...
La légèreté.
Dans le vif.
Avec cette vraie...
Merci de nous avoir suivis, à demain, Soir Info revient demain, l'édition de la nuit, c'est avec Simon Guilin dans une poignée de secondes. L'insoutenable, on sait, oui, voilà. Emile Kundera. Merci beaucoup.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.